Bonjour tout le monde. On va passer un peu plus de temps ensemble ce matin, donc je vous demande de garder votre Bible ouverte, votre GSM fermé, et votre conscience en éveil, et votre attente, et votre soif pour le café en veilleuse. On va attendre pour le café un peu plus tard. Je voudrais commencer avec une réflexion personnelle où je vous invite chacun et chacune à réfléchir à votre arrière-plan familial, à votre vie, votre vécu, votre passé. Et la question particulière, de qui êtes-vous les enfants? De qui êtes-vous les enfants? Réfléchir un petit peu à nos parents humains qui nous ont éduqués. Et je pense que probablement on peut représenter différentes histoires. 4 scénarios auxquels j'ai pensé. Peut-être qu'il y en a d'autres. D'abord, des parents ordinaires. Ils t'ont éduqué sans avoir énormément de moyens pour te donner un grand héritage ou un grand avantage dans la vie. Parents ordinaires. Ou peut-être des parents difficiles. Papa n'était pas là. Ou il traitait mal ta maman. Peut-être que maman était instable, faisait des mauvais choix en matière d'homme, et tu as voulu vite t'éloigner d'eux. Surtout ne pas répéter le même modèle dans ta vie. Autre cas, autre scénario, des parents connus. Tout le monde connaissait tes parents. C'était des gens bien connus dans la société ou dans l'église, et tu as toujours vécu en étant dans leur ombre. « Ah, mais c'est le fils du pasteur, c'est la fille du missionnaire, savez-vous. » Ou « C'est le fils du patron, attention, c'est le fils du patron. » J'ai vécu ça un petit peu vendredi passé à la suite du concert. Il y avait beaucoup de gens rassemblés à un concert chrétien vendredi. Et bien sûr, quand on se connaît, on se salue naturellement, on se traite normalement. Mais à la fin, il y a une famille qui s'est approchée de moi et le papa a dit « Ah, c'est Paul Évry. » Il m'a présenté à sa famille, c'est Paul Évry. Ils sont tous présentés, j'ai dit bonjour. Et puis il a regardé un de mes fils, il a dit, ça c'est ton fils. J'ai dit, oui, c'est mon fils. C'était pas normal, c'était pas un moment normal pour mon fils, ni moi, ni eux, voilà. Peut-être que tes parents étaient d'une famille, ou a créé une famille importante. Ils t'ont donné l'avantage d'être dans une tribu. Une fois que tu étais né, il y avait plein de frères et sœurs, tu avais plein de cousins, tu venais d'un héritage, une lignée, tu sais qui tu es de notre famille. C'est un nom qui envoie, c'est un nom que les gens connaissent. Une lignée, un héritage. Parents ordinaires, parents difficiles, parents connus, famille importante, nous avons tous eu des parents. Mais nous n'avons pas tous eu la même expérience. Nous traînons alors avec nous dans la vie une identité. Nous sommes les enfants d'eux. Sans nécessairement vouloir cette identité ou être heureux de cette identité. Mais c'est là. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose de plus positif, c'est être enfant de Dieu. Ou pas. Alors l'arrière-plan familial ne va pas disparaître. Mais notre réelle identité, si nous appartenons à Christ, c'est notre vie en Dieu, notre réelle appartenance. C'est faire partie de la famille de Dieu. Et cela veut dire aussi que notre comportement doit changer, n'est-ce pas? Parce que ça va être bien plus noble une fois que nous comprenons de quelle famille nous sommes, de qui nous sommes les enfants. On continue en la première épître de Jean, 1 Jean chapitre 3, ne pas confondre avec Jean, l'évangile de Jean, mais 1 Jean, les petites lettres de Jean sont à la fin de la Bible, il y a l'Apocalypse de Jean, et avant il y a une petite lettre de quelqu'un qui s'appelle Jude, mais avant cela il y a 3 Jean, 2 Jean et 1 Jean, toujours le même Jean, mais qui a écrit des petites lettres aux églises. Alors en 1 Jean chapitre 3, nous allons lire les 10 premiers versets, les 10 premières phrases, et on remarque comment Jean commence vraiment fort avec le mot « voyez », qui est un mot que la Bible utilise pour dire « regardez à l'œuvre de Dieu, voyez ». Ce mot-là est vraiment fort. Vous l'avez sous les yeux ? Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il n'a pas vu, il n'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste, comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. On commence tout simplement par le titre « Les enfants de Dieu ». Jusque-là, le discours de Jean dans sa lettre n'a pas toujours été le même. Vous avez remarqué cela ? À certains moments, Jean va s'exprimer comme un témoin en disant « Nous avons vu, entendu, contemplé Jésus ». Puis il a été catégorique. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur. Jean, à d'autres moments, a été rassurant. « Oh, petits enfants, vos péchés sont pardonnés. » Et puis, il a été lanceur d'alerte. Vous avez entendu le message de Patrick la semaine passée, en prêchant sur ce que Jean écrit. « C'est la dernière heure. Des personnes nient que Dieu, que Jésus est le Messie. Attention, attention, alerte !» Et donc, quand on lit ce passage et ce livre, on doit concevoir que ce n'est pas toujours le même type de discours, le même ton dans ce qu'il écrit. Et ici, il me semble qu'on entre dans une nouvelle tonalité. Une autre émotion est exprimée par Jean, et c'est la joie. C'est la joie. Voyez, quel amour, ou quelle sorte d'amour le Père nous a donné. On entend la joie dans le discours du disciple Jean. Un auteur donne un exemple fictif d'un expert de roses, fleurs, les roses, qui dit « Je peux vous décliner les différents types de roses, je peux décrire leurs dimensions, vous dire quel terreau est nécessaire pour qu'ils grandissent bien, je peux dessiner leur forme, mais j'oublie la dernière fois où je me suis assis dans mon jardin pour admirer mes roses. » Et c'est vrai que dans le milieu chrétien, dans la vie chrétienne, nous avons besoin aussi de prendre note de ce que Jean fait là. Il s'arrête pour simplement admirer la réalité de ce que Dieu a fait pour nous. Voyez, quel amour, quel amour. Oui, nous avons besoin de connaissance de Dieu, nous avons besoin de savoir la vérité sur Christ, pour vraiment connaître le vrai Christ. Mais nous devons aussi voir et revoir et nous réjouir de la vérité, de l'amour de Dieu pour nous. Même si c'est simple, même si on le connaît, même si on a déjà vu ça, c'est pas compliqué à comprendre. Mais c'est l'amour agapé qui est utilisé ici, d'un autre ordre des relations amicales que nous pouvons connaître, de l'amour que nous pouvons vivre en tant qu'êtres humains les uns avec les autres. C'est différent. Quelle sorte d'amour ? Eh bien, c'est bien différent, je vais penser aux autres relations humaines. L'amabilité, la camaraderie quand on fait du sport ensemble et on dit « Ah ouais, je l'aime bien celui-là, il joue bien. » Ça, c'est pas le même ordre d'amour que l'amour de Dieu, n'est-ce pas ? ou l'appréciation de collègues. Peut-être que vous travaillez avec des gens, vous appréciez leurs qualités, ce sont des gens qui connaissent bien leur domaine, qui travaillent bien. Eh bien, on a du plaisir à travailler ensemble, n'est-ce pas ? On apprécie les collègues, certains collègues en tout cas. Mais ce n'est pas l'amour. Ou l'admiration d'un ami. Peut-être que tu as un ami avec qui tu aimes passer du temps. Son approche à la vie est intelligente. Il a de la répartie. Il est de bonne compagnie. Il est fidèle envers toi. Oui, c'est bien d'apprécier, d'admirer un ami comme cela. Mais ce n'est pas le même type d'amour que l'amour de Dieu. L'amour de l'amitié est différent. Ou l'attirance pour une personne du sexe opposé que vous admirez tant, que vous aimez tant, que vous dites, voilà, je veux passer toute ma vie avec cette femme. Marions-nous. Quel grand amour, n'est-ce pas, dans le mariage. Mais ce n'est pas le même ordre d'amour que l'amour de Dieu pour nous. Et puis je pense enfin à l'affection pour nos enfants. On dit souvent que ça, c'est le plus grand amour, n'est-ce pas ? C'est un amour sacrificiel pour nos enfants. On se lève la nuit, on se dépense, on donne tout pour nos enfants, n'est-ce pas ? Mais ce n'est qu'un petit reflet du grand amour de Dieu le Père pour nous, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et juste après qu'il a dit que nous sommes appelés enfants de Dieu, il confirme directement, et nous le sommes ! Ce n'est pas juste que Dieu nous appelle ses enfants, c'est que nous sommes réellement ses enfants. Alors quand on a ces conversations, « Ah oui, mais rappelle-moi, qui c'est tes parents ? C'est qui ton père ?» Pensons à cela. « Mon père, c'est le créateur du monde. Ce n'est pas le patron de l'entreprise. Ce n'est pas l'ancien pasteur. C'est le maître de tout. Créateur du monde. Il m'aime. » Il était en train de lancer des étoiles dans la Voie lactée et au-delà. Et il pensait à toi. En train de former les chutes du Niagara ou la rivière amazonienne, cette grande, grande rivière majestueuse. Ou les montagnes Himalaya. Et il pensait à toi. En fait, même avant de faire cela, il pensait à toi. Parce que la Bible dit, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Éphésiens 1, verset 4, si vous voulez vérifier. Dieu nous aime. Et c'est un énorme privilège que Jean répète là. Alors le monde qui nous entoure ne nous donne pas ce titre d'enfant de Dieu. Ne nous traite pas comme si nous étions quelqu'un de spécial ou de différent. Ne nous montre pas de l'estime en disant « Ah, mais vous êtes les enfants de Dieu, n'est-ce pas ?» Mais c'est parce qu'il n'a pas connu Dieu, verset 1. Néanmoins, nous sommes, verset 2, maintenant enfants de Dieu. Peut-être que vous regardez l'Église, vous dites « Mais bon, c'est pas la gloire, hein, les chrétiens ?» Et oui, nous vivons avec des corps brisés, usés, fragiles, qui dépérissent. Notre esprit, notre cerveau est aussi affecté par la réalité du péché dans notre monde. Nos pensées, nos émotions ne sont pas toujours au top du top. C'est parce que nous ne sommes pas ce que nous serons un jour. Cela sera manifeste que nous sommes enfants de Dieu. C'est le jour que Paul évoque en Romains 8 en disant « la révélation des fils de Dieu ». Alors ici, Jean ne veut pas confondre son auditoire. Il a insisté que le fils de Dieu est unique et éternel. Et nous ne sommes pas uniques. Nous n'existons pas depuis l'éternité. Nous ne sommes pas sans péché. Et donc, au lieu de nous appeler les fils de Dieu, il utilise l'expression « enfants de Dieu ». Pour qu'on préserve la différence entre nous et lui, le Fils éternel de Dieu, Dieu très haut. Mais en même temps, il annonce aux chrétiens, nous le verrons tel qu'il est. Et lorsque nous le verrons, notre Sauveur glorifié, nous serons semblables à lui. Il va falloir que Dieu nous transforme, n'est-ce pas ? Mais il va nous transformer. Il nous transformera pour que nous soyons semblables à lui. Alors pour cela, parfois pour imaginer cela, parce qu'effectivement nous ne savons pas encore ce que ça va être, Nous avons besoin de nos chantres, nous avons besoin de nos compositeurs. Et j'aime bien quelques mots de la part du groupe Écriture que nous avons entendu vendredi. Éternel délice de mon âme et mon chant, je contemple Christ. Et puis le Fils, règne ressuscité, Seigneur du peuple qu'il libère, de leur éloge couronné, il siège à la droite du Père. Sa majesté, son nom parfait, loué pour toute éternité. Et dans un autre chant, ils disent « Ma foi enfin récompensée, quand de mes yeux je le verrai. » C'est notre espérance, mes amis, mais non seulement notre espérance, c'est notre avenir. Et nous serons semblables à lui. Alors comment est Jésus? Eh bien verset 3 nous le dit « Il est pur. » Et donc toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Il se peut que nous ayons besoin d'entendre à nouveau qui nous sommes et où nous allons. Et si vous êtes visiteur ce matin, que vous pensez que le christianisme est une longue liste de choses à faire, ou surtout une liste de choses à ne pas faire, j'aimerais vous encourager à voir différemment, à saisir que la vie chrétienne est avant tout une histoire d'amour entre Dieu et nous. Si par contre, vous venez depuis pas mal de temps et vous vous êtes habitué à l'idée que Dieu vous aime et que votre christianisme se réduit à venir chaque dimanche pour entendre que oui, Dieu vous aime, c'est une sorte de McDonald's drive où on vient et on commande le même menu et on a toujours la même chose chaque dimanche. Mais je dois vous dire que ce n'est pas suffisant de penser que Dieu nous aime et qu'on peut rester comme ça. Parce que dans la suite, la Bible est très claire sur le péché et sur l'obéissance. Et c'est la deuxième partie du texte. Les enfants qui connaissent Dieu, les enfants de Dieu, ne devraient pas se tromper. Regardez les versets 4 à 7, Jean revient sur un thème qu'il a déjà abordé, il est incohérent que ceux qui sont chrétiens pratiquent le péché. C'est incompatible avec la foi de continuer dans le péché. Si nous demeurons en Christ, nous grandissons dans l'obéissance. On ne peut pas vivre sans loi. Jésus est juste et celui qui vit de son côté pratique la justice aussi. Vous savez, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi ou pour enlever la catégorie d'obéissance. Il est venu pour enlever nos péchés à cause du fait que nous n'arrivions pas à obéir à Dieu et à obéir à sa loi. Le chrétien ne peut pas donc dire qu'il est sans loi, mais qu'il obéit, il est soumis à la loi de Christ et le règne de Christ dans sa vie. Alors j'attire votre attention sur une anomalie dans ce texte, que Jésus n'est pas mentionné par son nom, ni par son titre, Christ. Les traducteurs qui ont traduit en français ont choisi d'insérer ce mot-là, parce qu'il s'agit bien de lui, bien entendu. Mais Jean a écrit « il » au verset 2. « Il apparaîtra ». Et puis il a utilisé une expression qui est « celui-là » au verset 3. « Celui-là est pur » au verset 5. « Celui-là est apparu pour enlever nos péchés. » Et puis au verset 7, « Celui-là est juste. » Intéressant qu'il n'a pas utilisé le nom de Jésus, mais ça attire le fait sur son caractère, ça attire l'attention sur son caractère. Qui est ce celui-là? Il est sans péché, il veut enlever les péchés, il est juste. Vous voyez comment ça relie un peu les différentes descriptions. Et Jean va développer l'œuvre de Christ, particulièrement sous deux aspects. D'abord, il est venu enlever nos péchés, verset 5, et puis Jésus est venu détruire les œuvres du diable, verset 8. Et là, il utilise bien l'expression « le Fils de Dieu » qui est venu enlever les œuvres du diable. Alors, on va parler des œuvres du diable tout à l'heure, mais d'abord, on va comprendre qu'il est venu enlever nos péchés. Jésus a porté nos péchés à la croix. Mais en les portant sur lui, il les a enlevés de nous. Nous n'avons plus nos péchés, il les a enlevés loin de nous. C'était le problème qui nous empêchait d'être amis avec Dieu. Et donc, si quelqu'un pêche, verset 6, c'est qu'il n'a pas vraiment compris ce que Jésus a fait. Jésus a enlevé cela et tu veux le récupérer, mais qu'est-ce que tu fais? Et donc, il dit au verset 7, petits enfants, c'est l'expression de Jean, hein, le Jean qui est âgé maintenant, qui écrit pour ses lecteurs, les chrétiens, petits enfants, que personne ne vous égare, que personne ne vous trompe sur ce point. Alors, je ne vais pas être trompé ou égaré quand un non-chrétien pêche. Je n'ai pas besoin de discernement ou d'intelligence particulière pour comprendre ça. C'est normal qu'un non-chrétien pêche. C'est naturel qu'un non-chrétien veuille continuer à désobéir à Dieu, n'est-ce pas? Donc, pourquoi est-ce qu'il dit « ne vous trompez pas » ? Je pourrais me tromper, je pourrais être égaré par quelqu'un qui dit « ah ouais, mais moi je suis chrétien, tu sais. Ah ouais, moi je suis comme toi, je suis chrétien. » Et puis qui dit ensuite quelque chose qui relativise le péché, du style « ouais, mais oh, c'est pas si grave, hein, on va pas être trop pointilleux par rapport au péché. Dieu comprend à qui nous sommes. Et on n'est plus sous la loi, après tout. Il ne faudrait pas être légaliste. » Toutes des expressions qui vont en fait relativiser le péché et faire que, bah, finalement, si tu veux pécher, tu pêches. Un commentaire a dit ceci. Certains pseudo-chrétiens essayaient de persuader les vrais croyants de l'Église qu'une personne pouvait être sauvée tout en continuant à vivre dans le péché. C'est ça l'enjeu, en fait, quand Jean écrit. C'est que des gens disent « ouais, vous pouvez être chrétien et vivre comme vous voulez. » Et peu importe si on appelle ça le péché ou pas. Non, là, j'ai besoin d'un avertissement de papy Jean. Ce disciple maintenant âgé qui écrit pour prévenir les jeunes naïfs dans la foi. « Et les amis, c'est pas comme ça. Que personne ne vous égare. Être chrétien, connaître Christ, ben, c'est pratiquer le bien et pas le péché. » Alors, vous avez entendu quelqu'un dire qu'il est croyant, mais non pratiquant? Eh bien, vous pouvez dire « je suis pécheur, non pratiquant ». C'est ce que vous êtes. Je suis pécheur, non pratiquant. Puis, dernière partie, versets 8 à 10, il va montrer pourquoi il est nécessaire d'avoir du discernement, parce qu'il y a aussi les enfants du diable. Il y a les enfants du diable. Dans les derniers versets de notre lecture, vous avez entendu que soudain, Jean parle beaucoup du diable. Quatre fois, il va le mentionner. Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Je pense qu'il veut contrecarrer l'idée que nous sommes tous enfants de Dieu. Ah oui, parfois vous entendez ça. Ah oui, mais on est tous enfants de Dieu. Hein. Mais non, pour être enfant de Dieu, il y a une condition. La condition est évoquée en toutes lettres au chapitre 5, verset 1. « Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. » Si vous voulez être enfant de Dieu, il faut croire en Jésus comme Messie. Mais tous n'ont pas cru que Jésus est le Messie. Tous n'ont pas suivi Jésus comme leur maître et sauveur. Alors, dans un sens, oui, c'est vrai que nous sommes tous créés par Dieu. Et dans ce sens-là, nous sommes enfants de Dieu. Mais ici, il n'est pas de question de qui nous a créés, il n'est question d'à qui nous appartenons par notre ressemblance. Et donc, il y a d'un côté les enfants du diable. Le diable ne les a pas créés, mais ils ressemblent au diable, ils appartiennent au diable. Alors, s'il vous plaît, n'imaginez pas que les personnes qui sont décrites ici comme des enfants du diable portent des signes externes occultes, des vêtements bizarres, des tatouages de symboles de sorcellerie ou qui affichent particulièrement qu'ils sont sauvages ou qu'ils appartiennent au diable. Non, l'ennemi de Dieu est beaucoup plus subtil que cela. Il préfère passer inaperçu. Dans la première scène de tentation de la Bible, comment est-ce que le diable s'est approché des humains? Il n'a pas proposé un rituel magique, vous savez. Et il n'a pas dit on va faire un exorcisme ou une pratique occulte. Il a dit « Oh, vous pourriez être tellement mieux que ce que vous êtes maintenant. Vous avez un potentiel énorme. Il ne faudrait pas laisser Dieu vous dire ce que vous devriez faire. Il faudrait vous sentir libre, décider ce qui est bon pour vous. » Et ce mensonge était tellement attirant que l'humanité a péché et le tour était joué. On est tombé dans le panneau. Verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Ça veut dire que celui qui est du diable est celui qui lui ressemble, pas physiquement, mais dans sa rébellion contre Dieu. Et nous connaissons tous des enfants du diable. Cet ami qui te semble tellement charmant, avec qui tu aimes bien passer du temps, il peut que ce soit un enfant du diable. Cette femme que tu trouves tellement charmante, belle, attirante, ouais. Si elle est en rébellion contre Dieu, elle est enfant du diable. Et de l'autre côté, il y a les enfants de Dieu, dont il a parlé tout au long. Il est en train de montrer la différence qu'il y a entre les enfants du diable et les enfants de Dieu. Mais le Fils de Dieu est venu détruire les œuvres du diable, verset 8. C'est pour ça qu'il est venu. Alors j'aimerais parler de cette section parce que dans ces derniers versets, il y a quand même quelques difficultés. Je ne veux pas vous laisser partir dans la difficulté en disant « mais je ne comprends pas la Bible ». Donc on va juste dans ces dernières minutes, si vous m'accordez votre concentration, comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Jésus a détruit les œuvres du diable et puis aussi qu'est-ce que ça veut dire que le chrétien ne peut pas pécher. Parlons d'abord des œuvres du diable que Jésus a détruites. Dans un film, on a tous vu des films d'action où il faut désamorcer une bombe. Et il faut faire quoi ? Il faut couper le fil rouge. Généralement, il y a un choix entre le fil rouge et le fil bleu. Je ne sais pas pourquoi ils ne coupent pas juste les deux, pour être sûr, mais je ne suis pas démineur de bombes. Donc voilà, ils vont suer, et puis le décompteur est en train de tourner, là. Ils disent, voilà, je dois faire quelque chose, est-ce que je coupe le fil rouge ou pas ? Ils coupent le fil rouge, juste à temps. Qu'est-ce qui se passe ? Rien. Ça veut dire que c'est bon. La bombe est désamorcé. Peu importe que derrière, en arrière-plan, il y a le méchant qui est plein de hargne et de haine et est en train de maudire le héros qui vient de sauver la planète, n'est-ce pas ? Parce que le fil est coupé, la bombe est désamorcée, la machine ne tourne plus. Sa machine est à l'arrêt. Et pareillement, c'est ce qui est en train de se passer. Satan n'a pas été annihilé, mais sa puissance a été diminuée. Ses armes ont été détruites. Ainsi, des personnes peuvent échapper aux griffes du diable. Des personnes qui, aujourd'hui, obéissent au diable, font sa volonté et se comportent comme des enfants du diable, demain pourraient plier le genou devant Jésus-Christ, être libres, être pardonnés, devenir enfants de Dieu. Ils pourraient naître de nouveau. Ils pourraient être nés de Dieu, verset 9, et la semence de Dieu demeure en lui. Alors, ce n'est pas un processus biologique. Le parallèle avec la biologie humaine ne convient pas, c'est pas du tout ça l'image. Mais Jean lui-même écrit dans son évangile au chapitre 1 qu'à tous ceux qui ont accepté la lumière, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et il ajoute au chapitre 3, verset 6, Jean 3, verset 6, ce qui est né de parents humains est humain. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors si vous n'avez pas vécu cette nouvelle naissance spirituelle, peu importe le nombre d'années que vous venez à l'Église, vous pouvez demander cela à Dieu. Je veux avoir la nouvelle naissance. Je veux commencer à nouveau. Je veux me repentir de mes péchés. Je veux Christ et je veux qu'il me sauve. Et Dieu ne refuse pas ceux qui viennent à Christ. Jésus a détruit les œuvres du diable. Mais l'autre question, c'est comment peut-il dire que le chrétien ne peut pas pécher ? Regardez le verset 9. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que, et le mot « pratique » n'est pas là en fait, mais ne pêche pas, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. » Quand un verset comme ça nous choque, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, je pense qu'il vaut la peine de comprendre à quelle question est-ce que l'auteur répond ici. Et la question n'est pas « Est-il possible que le chrétien pêche ?» Ce n'est pas la question ici. Est-il possible que le chrétien pêche ? Il a déjà répondu à cette question au chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Il a dit au chapitre 2, verset 1, « Mes petits-enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas, vous les chrétiens, mais si quelqu'un a péché, ben nous avons un défenseur auprès du Père. » On comprend que le chrétien peut pécher. Mais ce n'est pas la question ici au chapitre 3. Ici, la question est, comment reconnaître quelqu'un ? Quelle est la différence entre un enfant de Dieu et un enfant du diable ? Vu que les deux catégories existent, comment est-ce qu'on sait si quelqu'un est l'un ou l'autre ? Et la réponse est, ben, sa vie. Son abstinence du péché montre qui il est. Et donc, si tu es chrétien, oui, tu as péché. Nous avons tous péché. Mais tu as aussi résisté au péché. Peut-être pas tellement bien, mais quand même, quelquefois. Grâce à Jésus qui a détruit les œuvres du diable et sa puissance sur toi, grâce à l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu as pu faire en sorte que le péché ne devienne pas un trait de caractère, une habitude. Les péchés deviennent plus rares dans ta vie, les péchés qui autrefois étaient des habitudes. Tu y penses, tu y es attiré peut-être, mais tu n'agis pas selon la tentation. Et ça veut dire que tu es du bon côté. Sois rassuré. Par contre, si tu ne pratiques pas le bien, si tu n'aimes pas les chrétiens, verset 10, si le péché devient une excuse, une habitude, et tu t'excuses en disant, ben voilà, c'est mon caractère, attention, je dois t'avertir, c'est l'attitude de quelqu'un qui n'a pas Dieu pour Père, qui n'a pas Christ pour Seigneur. Le péché devrait nous troubler. Et si vous êtes dérangé par le péché, sa présence dans notre vie, ben c'est un bon signe, parce que ça devrait nous déranger. L'Esprit nous fait réagir. Voilà, je termine simplement en pensant à nos familles. Les avantages que nos parents nous ont donnés ne nous définissent plus. Leurs défauts et leurs manquements ne nous définissent plus. Nous ne sommes pas définis par les fautes et le parcours de nos parents. Dieu est ton Père, si tu es à lui, et je n'imagine pas de plus grand privilège que de pouvoir dire aujourd'hui « Dieu est mon Père ». Alors si tu es célibataire et tu penses, oh, c'est facile pour les gens mariés, ils sont mariés, ils sont heureux, ils sont aimés, eux, bien souviens-toi que tu connais déjà un plus grand amour que n'importe quel amour qu'on peut connaître ici, dans les relations humaines. Le petit mariage là, c'est rien, tu es aimé par Dieu. Et si tu es marié et tu dis, ben, franchement, c'est pas évident de vivre avec lui ou avec elle, ah, le mariage n'est pas à la hauteur de tes attentes. Eh bien, tourne-toi vers Dieu. Tu n'es pas censé trouver ton amour ultime ici-bas. Tu es censé trouver en Dieu l'amour d'une toute autre sorte dont nous avons parlé ce matin. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Prions. Oui, Seigneur, nous avouons que parfois nous sommes un peu stupides, nous regardons plutôt les uns vers les autres pour trouver l'amour ultime. Mais c'est toi qui es là, toi qui nous as donné la vie spirituelle par la nouvelle naissance en Christ. Tu es notre Père. Tu nous aimes d'un amour incomparable, divin, éternel, dès avant la création du monde et pour toute éternité. Et donc, Seigneur, que notre joie et notre bonheur se trouve à nouveau dans la relation que nous avons avec toi et que nous puissions repartir aujourd'hui encouragés parce que nous savons que nous sommes à toi pour la mort et la vie. En Jésus-Christ. Amen.